Europe 1, le 22-22-30, Théo Manval.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos, car il est 22h. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1.
Maintenant, ils savent que la colère commence à monter et je pense qu'elle est légitime. Qui pourrait vivre 5 mois sans salaire dans ce pays? Combien de temps ça va durer?
Les restaurateurs ont crié leur désarroi ce lundi et on apprend ce soir que les remontées mécaniques n'ouvriront pas non plus de tout le mois de février. Le gouvernement étend les aides, à condition pour ceux qui grognent de ne pas tenter d'ouvrir quand même. Le cataclysme redouté a donc eu lieu pour le foot français. Appel d'offres infructueux pour revoir les droits télé. Canal+ et beIN Sport l'ont boycotté. Dans ce journal également, des images qu'on aimerait revoir chez nous, des clients au comptoir en Italie, des files d'attente devant les musées rouverts. On ira faire un point à Rome sur cette amélioration de la situation sanitaire. La politique, début de l'examen ce soir du projet de loi contre les séparatismes à l'Assemblée. Un conseil de sécurité de l'ONU en urgence demain après le coup d'État en Birmanie. Et puis l'alerte de Météo France sur le climat extrême qui nous attend d'ici la fin du siècle si on n'infléchit pas pour de bon nos émissions de gaz à effet de serre. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil, Cyril Linet, patron du PMU qui a battu hier des records sur les paris en ligne. Ce sera juste après la bourse et vos prévisions météo pour demain. Pluvieux, venteux mais doux, nous dira Anissa Haddadi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On commence donc par ce coup de tonnerre qui s'abat sur le football français et qui tient en ces trois mots, appel d'offres infructueux. Ça veut dire tout simplement, Cyril de la Morinerie, que la Ligue de football professionnel n'est pas arrivée à vendre les droits du championnat au prix qu'elle en attendait cet après-midi. Après le fiasco Mediapro, ni Canal+, ni beIN Sport n'ont voulu jouer les sauveurs.
Oui, c'est une douche froide pour le foot français. Aucun candidat n'a atteint le prix de réserve. Mais la situation est intéressante, essaye de positiver ce soir le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Le géant Amazon, la plateforme de streaming sportif DAZN et Discovery avec sa chaîne Eurosport ont candidaté, confirme la Ligue via un communiqué. Les dirigeants du foot français se donnent 48 heures de réflexion, mais selon un acteur du dossier, la LFP devrait désormais entamer des négociations de gré à gré. Quant à Canal et beIN Sport, ce sont les deux grands absents de cet appel d'offres et c'est une véritable bombe. La chaîne cryptée poursuit son combat judiciaire avec la Ligue. Elle dénonce le processus d'attribution et souhaite que son lot sous-licencié par beIN Sport et qui lui coûte 330 millions d'euros par an pour deux matchs seulement soit remis en jeu. La Ligue a refusé. Par solidarité, sans doute, beIN Sport n'a pas candidaté. En attendant, la Ligue doit parer au plus pressé pour éviter l'écran noir. Mediapro diffusera la prochaine journée de Ligue 1 mercredi. Elle est prête à jouer les prolongations. Mais une autre chaîne, M6, propose aussi de diffuser gratuitement la prochaine grande affiche OM-PSG prévue dimanche prochain.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette crise qui se prolonge pour le foot français et qui n'est pas finie. Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. L'autre grand titre à la une ce lundi, je vous le disais, c'est donc la fronde des restaurateurs qui ont bravé l'interdiction et servi des clients ce midi à Paris, dans la Somme, le Doubs ou le Vaucluse, comme ici à Lille-sur-la-Sorgue, où Julien Achard a rouvert le Pescador.
Ah, ça a été magnifique, ça a été magnifique. Les gens étaient là, présents. Nous étions complets depuis plus d'un mois et nous avons refusé à peu près 200 couverts. Donc tout s'est très bien passé. Nous avons mis un bar extérieur, un comptoir extérieur. Les gens sont partis manger sur des manches debout et les gens sont venus chercher ensuite leur plat, leur dessert, leur café. Et nous avons passé de midi à 3h. Donc voilà, c'était un coup de semence. Maintenant, ils savent que nous sommes là, que la colère commence à monter et je pense qu'elle est légitime. Qui pourrait vivre 5 mois sans salaire dans ce pays? Donc nous le faisons. Donc nous avons pris notre mal en patience. Maintenant, il nous faut une date de réouverture claire et fixe et il nous faut des réponses sur toutes ces aides. Nos fonds de commerce perdent de la valeur, nos trésoreries commencent à être à zéro. Donc, combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Le patron du restaurant Le Pescador dans le Vaucluse avec Hélène Terzian. Alors, ils n'ont été qu'une poignée d'établissements à rouvrir en forme de bravade. Les appels initiaux étaient bien plus nombreux. Mais Carole Ferry, il faut dire que le gouvernement avait prévenu, ceux qui franchissent le pas se verront couper les aides.
Oui, effectivement, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. En fait, au départ, vous aviez 200 à 250 restaurateurs qui avaient prévu d'ouvrir illégalement aujourd'hui pour protester contre leur fermeture interminable, puis surtout exiger une date de réouverture, un peu de perspective. Sauf que voilà, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a immédiatement mis le holà en déclarant que tous ceux qui ouvriraient aujourd'hui verraient leurs aides suspendues pendant un mois et définitivement en cas de récidive. D'ailleurs, l'opération n'était pas soutenue par les principaux représentants du secteur qui estiment que les aides actuelles sont à la hauteur de la situation. Résultat, vous avez eu 2 à 3 ouvertures de restaurants à Paris, une cinquantaine au total en province. La plupart ont proposé de la restauration debout, à l'extérieur. Certains ont même obtenu le feu vert de la préfecture sous couvert de manifestation, donc ouverture aujourd'hui, mais tout le monde referme demain. Il n'y aura donc pas de grand mouvement de désobéissance civile. Il n'empêche, en cuisine, la colère et l'impatience continuent à bouillir.
Précision signée Carole Ferry. Et puis je vous le disais, on apprend ce soir que les remontées mécaniques resteront fermées pour le mois de février. Espoir douché pour les vacances d'hiver. Matignon indique que les loueurs de matériel seront éligibles aux aides et que les coûts fixes des entreprises de la montagne seront pris en charge, quel que soit leur chiffre d'affaires. Mais si on regarde bien les dernières données sanitaires, il y a matière à rassurer. Très légère baisse, mais baisse quand même du taux d'incidence du virus au niveau national et de sa présence dans les eaux usées, sauf dans le sud et l'est du pays. Quant au vaccin, après les remontrances devant leur retard annoncé, AstraZeneca et surtout Pfizer-BioNTech annoncent finalement qu'ils vont livrer plus de doses que prévu aux Européens, Victor Dolande.
Oui, un surplus qui sera acheminé au second trimestre. Objectif, rattraper en fait les retards des semaines précédentes et ajouter donc 75 millions de doses dans les commandes. Du côté d'AstraZeneca, après un bras de fer avec la Commission européenne ces derniers jours, là aussi les choses semblent se débloquer. Et pour faire passer la pilule des retards des premiers mois, le laboratoire AstraZeneca s'engage donc à fournir 9 millions de doses supplémentaires, un vaccin dont on saura demain s'il est recommandé ou non par la Haute Autorité de Santé aux personnes de plus de 65 ans. Mais ces retards presque réglés ne vont pas non plus permettre d'accélérer considérablement la campagne de vaccination dans les deux prochains mois. Le nombre de doses, vous le savez, reste toujours limité. Et forcément, dans ce contexte, les autres vaccins que l'Europe attend sont scrutés à la loupe. Ainsi, les laboratoires Johnson & Johnson ont annoncé des résultats encourageants pour leur sérum de 57 à 72% d'efficacité d'après les résultats des essais cliniques de phase 3. L'Agence européenne des médicaments devrait se pencher très bientôt sur ce dossier et ce vaccin pourrait donc étoffer l'offre européenne dans les prochains mois.
Victor Dolande. Tandis qu'en Italie, on a revu cet après-midi des images qu'on pensait révolues. Clients attablés au restaurant jusqu'à 18h, file d'attente devant les musées dans le respect des gestes barrières. La situation s'améliore dans les hôpitaux transalpins et plusieurs régions ont donc allégé les mesures de restriction, notamment à Rome, Blandine Hugonnet, où le Colisée a même rouvert ses portes.
Oui, c'est tout un symbole. Le célèbre amphithéâtre romain, le site le plus visité d'Italie avant la pandémie, a vu revenir les visiteurs aujourd'hui après quasiment 3 mois de fermeture. Le Colisée qui a accueilli les Italiens qui avaient réservé leur place en ligne avec prise de température et gel hydroalcoolique. Une réouverture qui réjouit tout particulièrement Emilia, parmi les premières à entrer dans le monument.
Je suis guide touristique. Le Colisée me manquait énormément. Je me suis précipitée pour cette réouverture. Je suis vraiment émue. J'ai hâte de pouvoir partager à nouveau ce magnifique monument avec les touristes dès leur retour.
Le Colisée rouvert à Rome, mais aussi la chapelle Sixtine au Vatican, la galerie des Offices à Florence, le site archéologique de Pompéi à Naples. Dans une très grande partie de l'Italie, des centaines de musées, monuments ou expositions sont en train de rouvrir. Une décision d'assouplir les restrictions liées à la situation sanitaire qui s'améliore dans les 3/4 des régions italiennes. Mais c'est aussi un choix politique et symbolique, malgré les pertes économiques de cette réouverture des musées en cette période. L'Italie veut donner le signe d'une reprise de la vie culturelle à l'arrêt depuis des semaines.
Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 en Italie. Et puis notez qu'en Afrique du Sud, les premiers vaccins sont arrivés aujourd'hui. Les autorités espèrent faire vacciner les 2/3 de la population d'ici la fin de l'année.
Europe Soir, Théo Manval.
22h bientôt passées de 9 minutes, on en vient à l'actualité politique et à ce projet de loi phare de la fin du quinquennat dont l'examen a commencé tout à l'heure à l'Assemblée. Le texte de lutte contre les séparatismes. 70 articles, 2 semaines prévues de débat et déjà 2600 amendements. Louis Dragnel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, doit faire face aux oppositions à gauche comme à droite.
Clairement, oui. Pas le droit à l'erreur pour Gérald Darmanin. Tout d'abord parce que le ministre de l'Intérieur défend un texte très sensible qui touche à l'intimité, la liberté de culte et la liberté de conscience. Ensuite parce que le projet de loi séparatisme, qui vise donc à lutter contre l'islamisme, tient beaucoup à cœur à Emmanuel Macron. Le chef de l'État a mis plus de 3 ans pour se faire un avis précis sur le sujet avant de prononcer son discours des Mureaux dans les Yvelines le 2 octobre dernier. Autant dire qu'Emmanuel Macron, à qui on reproche souvent la faiblesse de son bilan régalien, a mis son ministre de l'Intérieur venu de la droite, sous pression pour montrer qu'il est offensif contre le communautarisme. Ce matin, l'entourage de Gérald Darmanin nous a d'ailleurs prévenu qu'il veut se montrer intraitable sur la lutte contre l'islamisme dans la société et qu'il sera très présent pendant les débats. Le président sait que ce texte est l'un des derniers gros dossiers du quinquennat pour parler notamment à la droite et au Rassemblement national. Enfin, c'est un signe qui ne trompe pas. Gérald Darmanin débattra la semaine prochaine avec Marine Le Pen qui, rappelons-le, est aujourd'hui très haute dans les sondages pour la prochaine présidentielle.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Dans le même temps, coup d'envoi donné aussi aujourd'hui du Beauvau de la sécurité. 4 mois de consultation pour, dit le Premier ministre, nourrir une vaste réforme des forces de l'ordre à l'horizon 2022. Un appel à la grève demain des professionnels de la petite enfance. Ils dénoncent une réforme à venir des modes d'accueil dans les crèches et garderies et l'augmentation redoutée du nombre d'enfants pris en charge par chaque adulte. Et d'enfants, justement, il en a été question aujourd'hui aux Assises de la Marne pour un procès emblématique des violences infligées au sein de la famille. L'ouverture du procès Tony, du nom de ce garçon de 3 ans, battu à mort par son beau-père à Reims, c'était en novembre 2016. L'audience s'est ouverte et elle a été particulièrement lourde cet après-midi. Marion Dubreuil.
L'huissier présente les photos de Tony à la cour. Un visage tuméfié, un corps couvert de bleu. Les deux accusés refusent de regarder les clichés. Les jurés les découvrent chacun leur tour. C'est la seule image qu'ils auront du petit garçon de 3 ans et demi. L'émotion est palpable dans la salle. Le père de Tony tape nerveusement du pied. 60 lésions sur un petit bout de chou de 17 kilos, dénombre un médecin légiste. La mère de Tony se lève et quitte la salle. Un malaise, explique son avocate qui demande une suspension. Quelques minutes de pause et le compte-rendu de l'autopsie reprend, implacable. La pédiatre qui a examiné Tony affirme du haut de ses 67 ans et de sa très longue expérience des dossiers de maltraitance. Il est rare de voir un tel déchaînement de violence sur un enfant. L'avocat du beau-père de Tony tente bien de trouver d'autres explications aux marques sur le corps de l'enfant. La gale, une chute, Peanuts, balaye la docteur d'un revers de la main. Elle estime que l'enfant a reçu au moins une vingtaine de coups. Il a souffert dès la première lésion et jusqu'au bout, ajoute-t-elle. Autre question au cœur des débats. Tony aurait-il survécu s'il avait été pris en charge plus tôt ? La pédiatre en est convaincue.
Marion Dubreuil depuis les Assises de la Marne pour Europe 1. À l'étranger, un Conseil de sécurité des Nations Unies en urgence demain après le coup d'État militaire en Birmanie. Les États-Unis demandent le retour immédiat du pouvoir aux civils. La communauté internationale exige la libération de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, dont on est sans nouvelles. Didier François, il faut malheureusement le dire, ce putsch en Birmanie est vraiment tout sauf une surprise.
Effectivement, les militaires birmans menacés d'un recours à la force depuis les dernières élections législatives qui se sont tenues le 8 novembre dernier et au cours desquelles l'espèce de parti croupion créé par l'armée a pris une raclée monumentale. Ces candidats n'ont obtenu que 33 sièges sur les 476 que compte l'Assemblée, moins de 10%, alors que le mouvement d'Aung San Suu Kyi a raflé plus de 80% des députés. Un raz-de-marée en forme de plébiscite pour la dame de Rangoon et un terrible camouflet pour les militaires qui ont perdu politiquement la face, au point que le chef d'état-major a personnellement et publiquement remis en cause les résultats, dénonçant des fraudes massives sans la moindre preuve, comme l'avait fait Donald Trump, et il exigeait un recomptage des bulletins de vote, ce qu'a refusé la commission électorale. Les militaires sont donc intervenus ce matin, quelques heures avant la prestation de serment par le nouveau Parlement. Ils ont arrêté tous les ministres civils du gouvernement, proclamé l'état d'urgence qui transfère les pouvoirs législatifs, administratifs, judiciaires au chef d'état-major des armées. Fin de la parenthèse démocratique en Birmanie.
L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales sur Europe 1. On termine avec cette nouvelle étude qui a de quoi nous faire frissonner sur le climat. Ce sont les ingénieurs de Météo France qui alertent. Ils ont actualisé les données et passé en revue 3 scénarios des experts du GIEC. Résultat, Virginie Salmen, on le sait, mais on n'échappera pas, et nos enfants non plus, à un climat extrême, dit cette étude, d'ici la fin du siècle, si rien ne change dans nos politiques d'ici là.
Oui, les températures risquent d'augmenter de 3,9 degrés en moyenne selon le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire si on continue sur la trajectoire d'émission actuelle, et même de plus 6 degrés l'été avec des vagues de chaleur intenses qui font que nos étés pourraient ressembler à ceux du Maghreb. C'est une hypothèse de réchauffement colossal, explique Jean-Michel Soubérou, climatologue à Météo France.
Une différence de 3,9 degrés d'un jour sur l'autre dans le domaine de la météorologie, c'est des choses que l'on rencontre régulièrement. Mais dans le domaine du climat, ce sont des choses tout à fait considérables. Et donc, ce qui doit le plus nous marquer, ce sont les vagues de chaleur que l'on pourrait connaître. On pourrait se retrouver avec des vagues de chaleur qui, au lieu de durer au maximum une dizaine de jours, comme on connaît dans nos étés actuels, dureraient plus d'un mois, et avec des températures maximales qui pourrait avoisiner les 50 degrés en France. Donc là, on est sur des choses qui sont assez inimaginables, en fait.
Des nuits tropicales qui pourront durer jusqu'à 3 mois par an, des pluies intenses, quasiment plus de gelées. Tout ceci peut encore être évité si la France se positionne sur l'un des deux scénarios les plus favorables. Pour cela, il faudrait aller 3 fois plus vite dans la réduction de nos émissions de CO2 au lieu de prendre du retard.
Merci Virginie Salmen. Et du climat, on passe à la météo. Avec vous Anissa Haddadi, encore 20 départements en vigilance orange ce soir dans le sud-ouest et tout au nord du pays. Et le temps va rester très agité demain.
Oui, avec toujours beaucoup de nuages, Théo, et une nouvelle perturbation très active qui va traverser une nouvelle fois le pays demain. Il va donc, vous l'avez compris, encore beaucoup pleuvoir sur la majorité des régions. Des Pyrénées à la Côte d'Azur et jusqu'à la Corse, là le temps reste sec et ensoleillé. Vous aurez droit à une belle journée demain, enfin au sec. Au fil des heures, le ciel va légèrement se couvrir dans le sud et en particulier sur les Cévennes et l'Hérault. Prenez un parapluie au cas où tout de même. Partout ailleurs, il va pleuvoir beaucoup hein, d'ailleurs sur certaines régions, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace. Toutes les régions sont concernées, en particulier le Massif central. Le vent de sud-sud-ouest va également souffler fort demain jusqu'à 60 km/h dans les terres. Et puis les températures, elles restent toujours très douces pour la saison avec 2 à 11 degrés demain matin. Nous aurons 2 degrés à Gap, 7 à Paris et 11 pour Bordeaux et Biarritz. Demain après-midi, encore beaucoup de douceur. 10 degrés à Annecy, 13 à Strasbourg et Lille, 16 degrés pour Paris et Bastia et 20 degrés à Perpignan.
Une prévision signée Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas dans un instant, on fait le point sur les places financières. Avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil, le patron du PMU, Cyril Linette, on bat des records de paris en ligne. A tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
À 22h17, on fait un point sur la bourse avec vous, Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Théo.
Wall Street commence la semaine en hausse avec un gros rebond des valeurs de technologie.
Ça va mieux qu'à la fin de semaine dernière. Le Dow Jones remonte de 0,76%, 30 212 points. Et surtout le Nasdaq, donc l'indice des valeurs de technologie, progresse de 2,55%. Gros rebond à 13 403 points. Wall Street refait son retard donc de la fin de semaine passée avec les valeurs de technologie, avec aussi une nouvelle cible pour les spéculateurs. Il s'agit de l'argent qui a grimpé de près de 10% aujourd'hui, proche des 30 dollars l'once. Ceux qui profitent aux mines, comme Coeur Mining, qui bondit de 23% ce soir. Et puis Pan American Silver gagne 12%. Et puis donc, les valeurs de technologie rebondissent nettement, comme Tesla, plus 5,8%, 840 dollars. Piper Sandler, le broker, vise carrément un cours de 1200 dollars sur Tesla. Microsoft aussi prend 3,3%, Amazon 4,3%. On aura les chiffres, les résultats d'Amazon demain soir. Google plus 3,6, Facebook plus 1,4, hein, tout remonte. Apple plus 1,6% à 134,14 $. Le pétrole aussi rebondit de 2,8%, 53,60 $ le WTI. L'euro est plus calme, au-dessus des 1,20, 1,2060 face au dollar.
La bourse de Paris, Didier, a aussi repris de la hauteur ce soir en progression de plus de 1%.
Oui, pareil, hein, ça remonte d'1,16%. Ça se reprend à 5 462 points sur le CAC 40. Ce sont de nouveau les valeurs de santé qui se sont distinguées. Transgène plus 12%, Valneva plus 11% à 10,54 €. Le gouvernement britannique a donc commandé un total de 100 millions de doses de son futur vaccin contre le Covid-19, Valneva, en hausse de 11%. Quelques valeurs industrielles aussi ont rebondi après leur baisse de la semaine passée. Nexans plus 4,5%, Eramet plus 3,5%, Rexel plus 3%, Alstom plus 2,5%, 46 € après ses bons résultats.
L'exception du jour, Didier Hamaud, les sociétés foncières ont rechuté en raison de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² décidée vendredi soir par le gouvernement.
Effectivement, la décision du gouvernement de fermer les gros centres commerciaux non alimentaires pèse logiquement sur les propriétaires des murs. Clépierre, moins 7,5%, 18,38 €, alors que 70% des centres du groupe sont touchés par ces nouvelles restrictions sanitaires. Unibail aussi retombe de plus de 4%, moins 4,3% ce soir. Sur les autres places financières, ça rebondit, hein, ça remonte partout. Le DAX à Francfort, plus 1,4%, Bruxelles, plus 1,6%, Amsterdam, plus 1,6% aussi, Madrid, plus 0,5%, et donc le CAC 40 en hausse d'1,16%, 5 462 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet, Didier Hamaud de boursier.com. À 22h20, c'est l'heure de l'interview écho sur Europe 1 avec vous Emmanuel Duteil. Et avec vous ce soir, on va parler Paris en ligne. Vous recevez le patron du PMU. Bonsoir à vous.
Bonsoir Cyril Linette.
Bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du PMU. On vous connaît, l'opérateur de Paris Hippique. Vous aviez une très très grosse journée hier hein, puisque c'était le Prix d'Amérique, l'une des plus belles courses pour ceux qui adorent les courses de chevaux. Et ce qui est rassurant quand on regarde les encours, c'est que ça a bien marché en ligne chez vous. Vous avez, je crois, même battu un record. Vous avez passé la barre des 5 millions d'enjeux sur une journée, 5 millions d'euros. C'était jamais arrivé.
Oui, effectivement, sur les enjeux. Alors, on a des enjeux en point de vente et des enjeux sur Internet. Sur les enjeux sur Internet, on fait effectivement hier une journée exceptionnelle avec un peu plus de 5 millions et demi d'euros d'enjeux, ce qui n'était jamais arrivé. Ça concrétise finalement les très bons chiffres qu'on a aujourd'hui sur les paris en ligne. Alors, c'est lié, bien sûr, à la crise sanitaire, puisqu'on a une partie de notre réseau commercial qui est fermé.
Il y a un quart des points de vente, je crois, qui sont fermés.
Ouais, un petit peu plus. C'est 40% du chiffre d'affaires potentiel qui est immobilisé par la fermeture des bars, notamment. Donc, évidemment, ça n'est pas sans impact, mais ça permet, en dehors, évidemment, du dynamisme naturel du PMU, ça permet de réussir de gros chiffres, effectivement, sur le online.
Alors, ça permet en partie de compenser, parce que quand on regarde les encours au global sur ce Prix d'Amérique, qui est l'une des plus belles courses de l'année, on est quand même assez nettement en dessous de l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'on se rattrape un peu avec le numérique, mais ça ne compense pas tout.
Ah mais vous pouvez pas, parce qu'à l'origine, le PMU, c'est 90% des enjeux sur les points de vente et 10% sur le online. Donc avec 40% de vos points de vente fermés, il faudrait vraiment réaliser des scores absolument surréalistes sur l'online pour compenser complètement. Donc effectivement, avec 40% de nos points de vente fermés, compte tenu du dynamisme des points de vente qui restent ouverts, c'est-à-dire les tabacs et la presse, et compte tenu de l'extraordinaire dynamisme sur l'online, on ne perd entre guillemets qu'entre 15 et 20% de nos enjeux habituels. Et on s'accroche, enfin, dans un contexte où c'est difficile pour tout le monde, on est parfaitement conscient de ne pas être les plus mal lotis.
Oui, parce que surtout que la dernière fois on s'était parlé, hein, c'était quelques semaines après la rentrée de septembre, et vous aviez même étonné tout le monde parce que vous aviez fait un été record. Il n'y avait jamais eu autant de joueurs du côté du PMU. Est-ce que ça tient encore quand même ?
Mais oui, potentiellement, je pense que le PMU est en train d'afficher tous les records. Et on le voit effectivement sur l'online avec un réseau qui est parfaitement ouvert. Sur un réseau fermé à 40% comme le réseau physique, c'est évidemment plus difficile à lire. Mais sur l'année 2020, et c'est pour ça qu'on ne se plaint pas, hein, surtout comparativement à d'autres secteurs, il faut être à la fois très content et mais aussi très humble et très mesuré. En 2020, on a pu travailler 6 mois normalement, 6 mois avec l'ensemble du réseau ouvert, réseau physique, réseau online. Sur ces 6 mois, on est sur une croissance de 7,5%, dont effectivement les mois d'été, la dernière fois dont on s'était parlé, où là on avait une croissance encore plus élevée. Mais c'est 7,5% de croissance sur les 6 mois où on a pu travailler normalement. Mais en 2020, on a aussi eu 6 mois où on a travaillé soit sans course française pendant le premier confinement, soit avec une partie du réseau de distribution fermé, comme on le vit actuellement en début d'année. Donc c'est des chiffres qui sont difficiles à lire. C'est effectivement en moyenne un chiffre d'affaires qui est 20% inférieur à la normale, mais encore une fois, un, je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a dans le contexte actuel. Et deux, si on lit bien les chiffres, on voit bien que la dynamique est excellente.
Oui, parce que ce qui est une bonne nouvelle pour vous dans ce contexte, mais c'est le cas de beaucoup de groupes, c'est que ça a permis une mutation numérique accélérée. Vous avez gagné sûrement des années parce que pas mal de joueurs qui maintenant prennent l'habitude de jouer en ligne vont continuer à le faire. Et peut-être que même, ça fait venir des joueurs qui ne jouaient pas avant.
Exactement, sur les recrutés, on a beaucoup de nouveaux recrutés, on a quasiment doublé notre nombre de clients qui ouvrent un compte, on a 80% de clients qui viennent du réseau physique et 20% de clients nouveaux. Et les deux sont importants parce que les clients du réseau physique, c'est des clients qui demain vont développer leur usage, c'est-à-dire qu'ils joueront de manière indifférenciée sur Internet ou en point de vente, alors que jusqu'à présent, c'était surtout des clients du réseau physique. Et puis bien sûr, les 20% de clients nouveaux, c'est des clients qu'on attire avec une nouvelle offre, plus attractive, bientôt des nouveaux paris. On est en train finalement sur le online de façonner une offre différenciante par rapport à l'offre du réseau physique, alors que jusqu'à présent, c'était simplement sa duplication. Et par rapport à beaucoup d'autres entreprises qui connaissent effectivement un vrai boom sur le e-commerce, le gros avantage du PMU, c'est qu'on n'a pas de souci de logistique. Vous voyez, on n'a pas une chaîne logistique à adapter. Il suffit simplement d'être capable d'accueillir sur le réseau online nos nouveaux clients et de leur proposer nos offres.
Alors, comme le football, il n'y a personne aujourd'hui dans les hippodromes pour voir ces courses. Est-ce que malgré tout, ça ne nuit pas un peu à l'atmosphère qui se dégage de ces courses hippiques ?
Alors, je le dis à chaque fois, ça ne nuit pas aux enjeux, parce que les enjeux sur Hippodrome, c'est 1% des enjeux totaux du PMU, hein, qui totalise plus près de 10 milliards par an. Donc,
mais c'est vrai que c'est là où on voit quand même les vrais aficionados, où il y a de l'ambiance d'une certaine manière.
Mais évidemment, mais comme... Si vous comparez par exemple ce qui s'est passé hier à Vincennes, où la course était magnifique avec la victoire d'un cheval qui avait déjà gagné l'année dernière, qui a gardé son titre, avec ce que moi j'ai pu connaître depuis 2-3 ans à Vincennes le dernier dimanche de janvier, où il y a d'habitude 40 000 personnes en folie. Oui, en effet, concrètement, c'est un petit peu triste. Et l'hippodrome est un bel outil de recrutement pour des nouveaux clients, dont on espère pouvoir se resservir évidemment dans quelques mois quand la situation sera revenue à la normale. Mais le plus important quand même pour le PMU, c'est que les courses aient pu être organisées, parce que durant le premier confinement, il n'y avait plus de courses du tout. Mmh. Et à l'époque, notre chiffre d'affaires avait baissé de 95%. Donc là, on était dans une situation préoccupante. Aujourd'hui, honnêtement, on est dans une situation qui requiert de l'agilité, qui requiert de s'accrocher, mais qui n'est pas si mauvaise que ça et qui nous permet en plus, comme vous l'avez dit, de gagner du temps sur notre transformation en entreprise qui fait aussi du e-commerce.
Vous l'avez dit plusieurs fois à Cyril Linette depuis le début de cette interview, 40% de vos points de vente sont fermés aujourd'hui. Est-ce que de façon temporaire, on pourrait imaginer vous trouver dans des points de vente plus insolites, par exemple les magasins de vêtements ou autres, où c'est totalement impensable?
C'est trop compliqué, la machine informatique est trop complexe parce qu'il y a beaucoup de paris, il y a une gamme très importante, les paris c'est toute la journée, il y a 40 ou 50 courses par jour, donc il faut installer tout un matériel, vous ne pouvez pas le faire pour quelques semaines. Pour la partie du réseau de distribution fermé, les 40% qui sont fermés, on les a aidés, on a payé, on avait annoncé il y a quelques semaines un mois de loyer à ces bars, de manière à la fois à préserver notre activité, parce qu'on a besoin que ces bars puissent rouvrir quand ils en auront la permission, mais aussi de mener une action citoyenne. On considère encore une fois que le PMU n'est pas complètement à plaindre dans cette période et qu'il faut être capable de le démontrer.
Eh bien, merci beaucoup Cyril Linette, le directeur général du PMU, d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain 22h20.
Et merci à vous Emmanuel Dutheil. On vous retrouve aussi demain de 13h à 14h avec Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Demain, votre invité, le patron de la Micaline, la boulangerie et la restauration rapide qui se porte bien en ce début d'année. Vous restez avec nous dans un instant. On jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos journaux demain matin, Birmanie, retour à la dictature. Ça, c'est le titre qui barre La Croix. La Croix qui affiche en une un portrait de la chef de file du gouvernement civil depuis 2015, qui venait de remporter à nouveau les élections législatives et dont on est sans nouvelles hein, depuis le coup d'état de la nuit dernière, Aung San Suu Kyi. Elle pourrait être emprisonnée dans la capitale birmane, Naypyidaw. En Birmanie, les militaires écartent Aung San Suu Kyi et confisquent le pouvoir. C'est aussi la une du Figaro, qui revient également sur le transport aérien qui s'enfonce dans une crise historique. Le trafic était en recul de 66% en Europe le mois dernier. On attend de nouvelles faillites. Le Figaro qui revient aussi sur les armées françaises mobilisées, nous dit-il, contre le djihad 3.0. La ministre des Armées et le patron de la DGSE ont fait le point aujourd'hui sur l'état de la menace terroriste et sur cette émergence d'un djihadisme 3.0 clandestin, sans territoire et imprévisible. Les attaques informatiques sont aussi d'une certaine manière à la une de Ouest France, qui titre sur ce fléau pour les entreprises. Ouest France revient sur les techniques les plus utilisées, ce qu'on appelle les rançongiciels, les logiciels rançons. Le vent de fronde qui ébranle Wall Street à la une des Échos. Après avoir fait plier, on vous l'a raconté, hein, les fonds qui parient à la baisse en bourse, les petits porteurs s'attaquent désormais aux banques sur le marché de l'argent. Et certaines entreprises fragilisées profitent à l'inverse de l'engouement des particuliers pour lever de nouveaux capitaux, nous disent les Échos. Notamment le hedge fund géant Citadel qui bénéficie de la frénésie sur les actions. Navalny de points, Poutine, même pas peur à la une de Libération qui titre sur un large portrait de l'opposant russe toujours emprisonné. Alors que Paris et Berlin ont fait état aujourd'hui de leur désaccord pour la stratégie de riposte face à Moscou. Berlin refusant d'abandonner son projet de gazoduc avec la Russie comme le demandait pourtant Paris. Enfin, vaccins russes et chinois, que valent-ils vraiment? Cette question est à la une d'aujourd'hui en France, demain. Alors que la campagne de vaccination tourne au ralenti dans l'Hexagone faute de doses en quantité suffisante, les vaccins russes et chinois accélèrent leur développement dans le monde, dit aujourd'hui en France, et qui pose cette question. Peut-on avoir confiance? Réponse en page 2 et 3 du journal. Mais pour l'heure, il est 22h30 sur Europe 1 et vous avez rendez-vous avec la libre antenne, Olivier Delacroix qui s'installe. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Théo.
Avant de lire le Parisien, donc 39-21, on est avec vous jusqu'à 1h du matin.
Exactement. Et puis nous, on se retrouve pour l'info, le flash, à partir de 23h.
Théo, à tout à l'heure.